Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, ici Armand Dubois, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire de la série Destination Bonheur. Nous allons faire un beau voyage aujourd'hui avec notre invitée, chanteuse et comédienne, on l'a vue au cinéma et à la télévision. Mentionnons quelques titres, Les Colombes, La Grenouille et la Baleine, L'Anse et Compte, ou encore Avec un grand A. Mais elle ne se doutait probablement pas qu'un jour sa vie basculerait. Au retour d'un voyage en Europe, elle est terrassée par un virus qui la transporte de l'autre côté des choses, comme elle le dit. C'était en 1985. Cette mort clinique dont elle est revenue va transformer sa vie. Elle ne cesse depuis de faire œuvre humanitaire en accompagnant des enfants malades et en apportant de l'apaisement dans le cœur de leurs parents. Au gré du temps, elle crée la fondation Boule de rêve et parcourt le monde en tant que conférencière afin de diffuser un message d'espoir novateur. Avec nous aujourd'hui, Madame Lise Thouin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bien vivante.
Très vivante, oui.
Effectivement, il me semble qu'il y a longtemps que nous vous avons vu à la télévision ou au cinéma. Vous avez redirigé en quelque sorte vos activités.
Si vous m'aviez vu, ça aurait été dans le cadre de livres que j'ai écrits, beaucoup plus que dans le cadre d'un film ou d'une série télé que j'aurais faite.
Oui.
Effectivement, depuis plusieurs années maintenant, c'est l'essentiel de mon travail et au niveau de l'écriture. Mais ça me permet de faire mon métier quand même, parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir arrêté, parce que je fais des émissions de radio là-dessus, de télé, je fais des conférences, puis des conférences un peu partout dans le monde, ce qui est...
Des conférences très recherchées d'ailleurs.
Oui, parce que c'est un point de vue un peu particulier que j'apporte, c'est-à-dire le point de vue d'une artiste, le point de vue d'une artiste, mais qui travaille au point de vue humanitaire dans un domaine qui, évidemment, n'est pas courant, c'est-à-dire l'accompagnement à la mort, mais particulièrement au niveau des tout jeunes enfants et des adolescents.
Depuis cet événement de 1985, comme je le mentionnais, tout a changé.
Oui, c'est sûr, parce que je peux vous dire que avant 85, j'étais terrorisée moi aussi par la mort. Quand j'avais mes enfants tout petits et puis que j'arrivais, je sais pas moi, à l'hôpital Sainte-Justine, et puis j'attendais l'ascenseur, et puis tout d'un coup, je voyais à côté de moi une maman tenant dans ses bras un bébé sans cheveux, donc qui était en chimiothérapie. J'avais tellement peur que je prenais même pas le même ascenseur. Alors, pour vous dire à quel point toutes ces réalités-là, j'étais vraiment comme tout le monde. Ça me faisait peur. Je voulais les éviter, ne pas y penser.
Mais cette prise de conscience n'a pas été immédiate. On parle d'une mort clinique, donc quelques instants où le cœur ne bat plus, où on vous réanime. Mais la prise de conscience à l'égard de ce que vous ferez par la suite n'est pas présente immédiatement.
Non, c'était pas évident. La seule chose qui était évidente, qui a été évidente à ce moment-là, malgré que j'ai été extrêmement malade et que j'ai passé 2 mois et demi à l'hôpital entre la vie et la mort, mais de retour de ce grand voyage, qui d'ailleurs est pas si loin, c'est de l'autre côté des choses, comme je l'ai nommé dans ce livre que j'ai écrit et qui parle justement de cette expérience-là, il y a quand même une réalité absolue qui s'est dévoilée, c'est qu'on meurt pas.
Ça, vous en avez la conviction profonde.
Ben, c'est même pas une conviction, je le sais. On meurt pas, on continue ailleurs. Quelle que soit la croyance qu'on a, les religions, les dogmes, tout ça revient finalement à une chose, c'est qu'on a une continuité. Et c'est de cela, j'en suis sûre.
Et vous pouvez peut-être considérer avoir eu ce privilège, entre guillemets, ouais, d'être passé de l'autre côté des choses.
Oui, mais c'est ce qu'on dit après coup. Oui. Parce que je ne crois pas que les gens auraient voulu prendre ma place à ce moment-là.
Personne ne souhaite cela.
Une jeune femme de 37 ans avec deux jeunes enfants qui se retrouve avec un virus terrible qui s'appelle un Coxsackie B5, pour ceux que ça peut intéresser, qui passe systématiquement à travers tout mon corps, méningite, encéphalite, myocardite, péricardite, hépatite. Tout le virus s'est attaqué à toutes les parcelles de mon corps. J'ai perdu 40 livres. J'étais beaucoup plus mince que maintenant. Hein. Et c'était extrêmement difficile. J'ai dû tout réapprendre. Les mémoires ont déroulé. J'ai dû réapprendre à marcher, à monter un escalier, à descendre. Bon, à cette époque-là, je pense pas que personne aurait pu penser que c'était un privilège. Maintenant, avec du recul, oui.
Nous poursuivrons sur cette lancée, mais vous nous avez apporté aussi de la très belle musique. La toute première, elle est comme, j'allais dire, collée à votre peau. C'est celle qui vous personnifie peut-être le mieux. Et à l'égard du sujet que nous abordons aujourd'hui, il me semble qu'elle est tout à fait appropriée. C'est la chanson « Des colombes ». «
Des colombes », qui était la chanson thème du film « Les colombes ». Dont les gens se souviennent. C'est un film qui repasse toujours à la télé. Donc, même les plus jeunes me reconnaissent et puis me disent « Ah, les colombes ». Je pense que ça a été un moment marquant de l'histoire du cinéma, ce film. Et effectivement, la chanson m'est restée collée après.
Ne dessinez plus des colombes sur les murs recouverts de sang. Vous qui avez perdu le monde, en essayant d'être des grands. Ouvrez les cages des colombes, ouvrez le cœur de vos enfants. Ils sont le seul espoir au monde, ils sont les seuls qui ont le temps. Les enfants,
les enfants sont comme les colombes, ils n'ont pas besoin pour chanter de drapeau ni de liberté. Ils chantent pour se faire aimer. Les enfants sont comme les colombes, ils n'ont pas besoin pour aimer de discours ni de charité.
Effectivement, une très belle chanson, Madame Touin, qui est avec nous aujourd'hui, Lise Touin. Vous parliez de ce passage de l'autre côté des choses. Qu'est-ce qui, parce que bien sûr, il y a cet aspect curiosité de ceux qui vous écoutent au terme des témoignages que vous pouvez transmettre. Qu'est-ce qui est fascinant de cette expérience? Qu'est-ce que vous y retenez principalement?
Ben, c'est la perspective de la vie. La perspective de savoir que ça continue, la perspective de savoir que profondément ça a un sens, c'est très, très important. Ça change tout, en fait. Moi, quand je suis revenue de là-bas, de l'autre côté des choses, il m'est quand même... j'ai dû me poser plein de questions. Je veux dire, c'est pas... c'est des questions qui me revenaient à l'intérieur de moi, des questions qu'on se pose souvent quand on est adolescent. Le sens de la vie, est-ce que Dieu existe, mm-hmm. est-ce qu'on vit avant, est-ce que tout ça a un
sens? La quête de sens.
La quête de sens. Et là, évidemment, après une expérience comme celle-ci, il y a un déblocage qui se fait. On a envie de savoir, on a envie de comprendre, tout en sachant très bien que on ne pourra pas appréhender avec un petit cerveau tout petit une réalité qui est immense, mais que, bon, si je vis jusqu'à 80, 90 ans, j'en aurai quand même décodé avec mon cerveau et en vivant au jour le jour dans cette réalité dans laquelle on est. J'aurais fait certains liens, c'est tout ce que je peux...
Mais j'imagine qu'il y a des êtres rationnels, des scientifiques, des médecins qui ont tenté de vous dissuader de votre expérience en vous disant « Écoutez, c'est un phénomène cervical, neurologique ou... »
Maintenant, il y a de plus en plus de recherches très pointues qui se font au niveau des morts cliniques. Je vous dirais que j'étais dans un congrès, premier congrès international sur les NDE, qui se tenait à Martigues il y a 2 ans. Et c'est absolument hallucinant d'entendre les témoignages. C'est un congrès scientifique, là, les témoignages de médecins, cardiologues, anesthésistes, réanimateurs, physiciens.
Avec des points de convergence.
Avec des points de convergence, des faits qu'on ne peut pas remettre en question. C'est là. Et il disait que d'ici... 2 ou 3 ou 4 ans, la preuve serait faite de ce phénomène de la mort clinique. Donc, ça va très loin. C'est pas juste un tout petit truc. Si on essaie, si on peut prouver scientifiquement que la vie continue, même quand l'électroencéphalogramme est à plat ou l'électrocardiogramme est à plat, et que la personne, et tout ça c'est documenté, elle est branchée à la seconde près, et qu'elle peut dire, quand elle se réveille, que pendant le temps où effectivement tout était à plat, il s'est passé telle ou telle chose.
Mais on pourrait aussi dire que le métaphysique n'a pas nécessairement besoin du scientifique pour expliquer les choses.
Non, mais je pense que c'est important. Ça va faire un pas, un saut au niveau de la compréhension des choses pour beaucoup, beaucoup de personnes. Moi, j'ai pas besoin qu'on me dise c'est vrai ou c'est pas vrai, ou j'ai pas besoin qu'on me croie, j'ai pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Moi, je le sais. Mais c'est important pour les gens qui n'ont pas fait une expérience aussi provocante que la mienne, aussi profonde, de savoir qu'on pourra, qu'on peut déjà en expliquer un bon bout, mais que d'ici quelques années, ce serait clair. Et là, ben, il y a beaucoup de bases sur lesquelles sont posées toutes nos croyances, toute notre façon de vivre, qui seront quand même ébranlées, je l'espère.
La prochaine chanson fait état justement de cette immensité de découverte qui nous attend. Elle est de...
C'est une chanson qui est chantée par Céline Dion. Et c'est une femme qui l'a écrite, qui s'appelle... je ne l'ai pas avec moi, mais c'est une femme européenne. Et elle est très, très belle, cette chanson. Elle parle d'amour et de l'immensité de cette réalité-là.
J'ai vu l'oral Sahara, les nuits fauves d'une reine de Saba. J'ai vu la terre quelques orages, les océans ses naufrages. J'ai vu la foule et les silences, les feux de joie et la souffrance. J'ai vu les roses sous la neige et les grands loups blancs pris au piège. J'ai vu tomber la pluie d'été, les amants qui restent sur le quai. Mais ce qui m'étonne, tu sais, c'est tout l'éclat de nos baisers, tous les désirs.
sentir tous les sursauts comme des étoiles sur ta peau, comme l'immensité. J'ai vu les anges et les démons, les yeux baissés, les serments. J'ai vu les ombres et la lumière d'une femme seule et guerrière. J'ai vu les flots et les rochers, les révélations, les secrets. J'ai vu les vastes Amériques et tous les mirages de l'Afrique. J'ai vu l'azur et les glaciers se confondre et puis se briser. Mais ce qui m'étonne, tu sais, c'est tout l'éclat de nos baisers. Les désirs, tous les sursauts, comme des étoiles sur ta peau, comme l'immensité. J'ai vu l'enfance et l'ivresse, la vie qui sourit, la tristesse. J'ai vu la transe, le rire de notre fils qui danse. J'ai reconnu ses yeux dorés, oh, comme ils te ressemblaient. J'ai vu les lys, les orchidées, cachées dans mon jardin secret. Mais ce qui me renverse, tu sais, c'est tout l'éclat de tes baisers. Comme des étoiles sur ma peau, comme l'immensité. Comme la douceur de tes baisers. Tous les désirs, tous les sursauts, comme des étoiles sur ma peau.
Avec nous aujourd'hui, Mme Lise Thouin, l'auteur de cette chanson. La mémoire vous est revenue.
Nina Barraoui.
Voilà.
Oui.
Nous évoquions cette expérience. Peu importe qu'on puisse l'expliquer ou non, ce qui est important fondamentalement, c'est ce que tout cela amène par la suite.
Oui, c'est ce que ça change dans nos vies. Et je disais tout à l'heure que je suis quand même revenue de là-bas avec plein de questions. Et je trouve ça merveilleux, les questions. Les réponses, elles sont plus ou moins importantes.
Oui.
C'est les questions qui sont importantes dans la vie d'un être humain. Mais quand même avec une certitude et que je ne pouvais pas expliquer à l'époque, je suis revenue pour apprendre à aimer. Et je trouvais ça assez spécial d'être revenue avec cette phrase-là. T'es revenue, Lise, pour apprendre à aimer, alors que je suis quand même une personne aimante.
Un message que vous sentiez de l'intérieur.
Profondément. Pour apprendre à aimer. Je comprenais rien parce que je disais, ben, moi, j'aime ma famille, j'ai des enfants, j'ai plein d'amis, j'ai même un public, là, c'est plus que la plupart des personnes qui existe. Moi, j'ai en plus des gens qui m'aiment. Pourquoi apprendre à aimer? J'ai aimé, mais j'ai compris par la suite que l'amour, c'est un apprentissage qui est énorme, qui est très important. Je commence un petit peu à savoir un peu mieux aimer, mais mon Dieu, c'est grand, c'est vaste, ça aussi. Comme l'immensité de la chanson dont on vient d'entendre.
Et aimer, pour vous, cela, c'est concrétiser avec cette aide apportée aux jeunes enfants qui sont éprouvés par des maladies sérieuses.
Oui, en fait, la vie a fait en sorte que j'ai pu faire des gammes d'amour. Des gammes d'amour importantes, parce que quand on commence à travailler avec des enfants, je parle de bébés jusqu'à des grands de 20 ans, mm-hmm. qu'on est avec eux, qu'on les aime, que nos histoires se mélangent, qu'on a des grandes affections, des grands coups de cœur, et que ces enfants-là que j'ai accompagnés pour la plupart parce que ça, ça donne comme ça. Ils étaient là plus présents à l'hôpital Sainte-Justine, où j'ai principalement travaillé, sont décédés. Ben, comment aimer? Comment prendre le risque à chaque fois d'aimer? Alors,
Et de faire face à la mort aussi.
Et de faire face à la mort, mais de risquer. Bon, il y a un enfant qui meurt, je l'ai accompagné, et au service funéraire, il y en a un qui vient me prendre la main et qui me dit, Lise, j'aimerais ça que tu viennes chez moi. J'ai un lapin, je voudrais te le montrer. Et là, je sais que c'est une autre histoire d'amour qui va commencer. Est-ce que j'ai le courage? Est-ce que j'ose dire oui, je recommence une autre histoire d'amour quand il y en a une qui vient à peine de se finir?
D'ailleurs, dans un entretien que j'avais accordé récemment, vous disiez qu'il faut arriver avec de la vie dans une chambre d'hôpital, qu'on apporte un pain chaud, des fleurs, des photos, n'importe quoi, mais quelque chose de vivant, même si on sait que nous serons en présence de quelqu'un qui va probablement mourir.
Mais justement, parce que les gens sont vivants jusqu'à ce qu'ils partent de l'autre côté des choses, ils sont vivants. Et ceux qui sont malades, comme ceux qui les accompagnent, c'est-à-dire leurs parents, les proches, ont besoin de la vie. C'est un conseil peut-être que je peux donner à ceux qui vont voir des gens qui sont gravement atteints par la maladie. Apportez-leur de la vie, apportez-leur quelque chose qui leur redonne un coup de soleil.
Au même titre que après le décès, vous croyez qu'il faut aussi avoir du symbolisme, c'est-à-dire bien préparer le détachement, que ce soit une cérémonie funéraire, mais il faut être présent.
Je pense que le moment de l'agonie, le moment de est très très important. Il faut pouvoir préparer, faut pouvoir prendre le temps de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, pouvoir régler les choses, pouvoir dire les vraies choses aux personnes qu'on accompagne. Et puis, effectivement, on a besoin des rites. On n'est pas des... Maintenant, j'ai vu des funérailles qui se passent en 20 minutes dans une salle déshumanisée et les gens partent tout de suite. Je trouve ça inhumain.
La prochaine chanson évoque justement cet amour, cette présence vivante du jeune bambin qui, chaque dimanche, allait visiter sa mère en lui apportant des roses blanches.
Les roses blanches, et j'entends toujours la voix de maman qui me chantait cette chanson.
Celle-ci, cette fois, étonnamment, est interprétée par le regretté Sylvain Lelièvre.
C'était un gamin, un gosse de Paris. Sa seule famille était sa mère. Une pauvre fille aux grands yeux flétris par les chagrins et la misère. Elle aimait les fleurs, les roses surtout. Et le cher bambin, le dimanche, lui apportait des roses blanches au lieu d'acheter des joujoux. La câlinant bien tendrement, il disait en les lui donnant, c'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici les roses blanches que ton cœur aime tant. Va quand je serai grand, j'achèterai au marchand toutes ces roses blanches pour ma jolie maman. Au dernier printemps, le destin brutal vint frapper la blonde ouvrière. Elle tomba malade et pour l'hôpital, le gamin vit partir sa mère. Un matin d'avril, parmi les promeneurs, sur un marché, le pauvre mioche, n'ayant plus un sou dans sa poche, furtivement vola quelques fleurs. La fleuriste l'ayant surpris, en baissant la tête, il lui dit, c'est aujourd'hui dimanche, et j'allais voir maman. J'ai pris ses roses blanches, elle les aime tant. Sur son petit lit blanc, là-bas, elle m'attend. J'ai pris ses roses blanches pour ma jolie maman. Le marchand du mur doucement lui dit: emporte-les, je te les donne. Elle l'embrassa et l'enfant partit, tout rayonnant qu'on le pardonne. Puis à l'hôpital, il vint en courant pour offrir les fleurs à sa mère. Mais en le voyant, une infirmière lui dit: tu n'as plus de maman. Et le gamin, s'agenouillant, dit devant le petit lit blanc: c'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Et quand tu partiras au grand jardin là-bas, ces belles roses blanches, tu les emporteras.